L'épître de Paul aux Philippiens, Philippiens chapitre 4. Nous allons lire les 9 premiers versets, Philippiens chapitre 4, versets 1 à 9. Philippiens 4, versets 1 à 9. C'est pourquoi, bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, bien, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie, j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèles collègues, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. C'est là la parole de Dieu. Nous allons prier. Notre Dieu, nous venons à toi avec reconnaissance, parce que tu es un Dieu qui nous aime, celui qui nous donne, qui veut nous donner ta paix. Nous te remercions de ce que tu nous aies conduit ici. Nous te prions que tu nous conduises par ton esprit afin que nous saisissions ta parole. Seigneur, fais silence dans nos cœurs. Donne-nous une attitude de soumission face à ce que tu nous enseignes. Un cœur obéissant. Et Seigneur, donne que vraiment nous marchions dans ta vérité. Merci encore pour cette parole que nous avons, qui nous conduit chaque jour. Tu ne nous laisses pas sans direction. Et tu es celui qui nous garde, celui qui nous protège, celui qui nous assure la paix. Et nous te louons pour cela. Conduis-nous, nous te prions, en ton nom et pour ta seule gloire. Amen. Vous rappelez qu'en écrivant cette lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul, je crois, cherche à leur faire vivre peut-être au moins deux expériences surnaturelles. L'une qui est probablement le thème de cet épître, c'est la joie qui vient de Dieu. Et puis la seconde, eh bien, c'est la paix. Et cela est particulièrement visible quand on lit le chapitre 4. Si vous voyez les versets que nous avons lus, verset 7, il est dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et au verset 9, il est dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc ici, on pourrait dire qu'il parle de cette paix que le croyant peut connaître. Et donc on pourrait dire que l'apôtre Paul mène une lutte ici contre ce qui pourrait ravir au croyant ou le détourner de cette joie et de cette paix que Dieu donne. Et nous avions considéré la dernière fois le thème ici en regardant ces versets. Nous avions dit « Pour que la paix de Dieu nous garde, on avait considéré qu'il faut faire premièrement le choix de se réjouir dans le Seigneur, selon le verset 4 qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous ». Et on avait considéré aussi que pour que la paix de Dieu nous garde, eh bien, on devait agir de manière à être distingué par notre modération. Ça, c'est aussi important. Le verset 5 dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. et cette douceur, nous avions dit qu'il s'agissait de cette trace, de cette impression que l'on laisse, parce qu'il est dit qu'elle soit connue de tous les hommes, à tous les hommes, dans les échanges que nous avons avec eux. Est-ce que c'est la douceur? Est-ce que c'est le caractère de Christ qui est reflété? Ou est-ce que c'est notre emportement? Est-ce que c'est notre impatience, notre colère? Et ça, c'est une chose aussi qui était importante. Et puis, troisième résolution pour la paix que nous voulons considérer aujourd'hui, eh bien, c'est celle que l'on trouve au verset 6 et 7, où il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et on pourrait dire que cette troisième résolution, c'est le refus de l'anxiété, hein, mais le refuge vers Dieu, ce qu'il dit ici. Hein. On refuse l'anxiété pour se réfugier vers Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors, on veut considérer ce thème de l'anxiété avec ces deux versets ce matin. Et premièrement, voir vraiment le problème de l'anxiété. Hein. On va l'appeler un problème, mais la Bible le considère ici comme un péché. Hein. Le péché de l'anxiété, on aurait pu dire. Premièrement, sa pertinence, hein, les croyants de Philippe s'inquiétaient certainement pour l'apôtre Paul. Quand on lit la lettre, on voit que l'apôtre Paul les rassure sur sa situation. Je rappelle que l'apôtre Paul est en prison à Rome quand il écrit cette lettre aux Philippiens. À plus de peut-être 800 kilomètres, et donc il s'inquiète sans doute pour sa situation, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il devient dans cette situation, est-ce qu'il a de quoi manger, est-ce qu'il est bien traité, etc. Il y avait certainement des inquiétudes aussi concernant des adversaires, on lit en chapitre 1, verset 28, regardez, il dit... il les demande de combattre d'une même foi. Il dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui sera pour eux une preuve de perdition et pour vous de salut. Donc, il y avait peut-être, on peut penser à des adversaires à l'extérieur, mais au chapitre 3 et au verset 2 et 3, on peut penser aussi à des adversaires à l'intérieur. Il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Et donc, il s'inquiète peut-être à cause de cela. Il s'inquiète à cause de la maladie d'Épaphrodite. Regardez au verset 2. Si vous regardez le verset 2 et chapitre 2, verset 26, il dit qu'Épaphrodite a été malade et il dit, il désirait vous voir et il était fort en peine de ce que vous aviez appris ça. Maladie, hein. Et on sait quand on apprend la maladie de quelqu'un, eh bien, cela suscite parfois des inquiétudes. C'est un frère qui était aimé, il est au loin, il est parti vers l'apôtre Paul et il n'est pas en bonne santé. L'apôtre Paul dit qu'il était même proche de la mort, hein. Vous vous souvenez de cela. Et l'église de Philippe peut-être s'inquiète à cause de cela. Et puis l'église de Philippe s'inquiète aussi peut-être à cause de la situation conflictuelle qu'il y a entre Évodie et Saint-Tiche. Comment cela va se terminer? Est-ce qu'il y aura une division dans l'Église ou pas? Et l'apôtre Paul écrit ici au verset chapitre 4 et au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Donc l'inquiétude n'est pas seulement une attitude qui concerne les personnes du passé. Hein. Souvent on dit, ouais, les gens dans le passé n'avaient pas toutes les technologies que nous avons. Maintenant, quand ils voyaient l'orage, ils avaient peur. Quand ils voyaient la pluie, ils avaient peur. Maintenant, nous avons des connaissances, etc. Mais on voit que l'inquiétude concerne encore les personnes qui vivent aujourd'hui. Et en 2017, les Français ont été désignés les champions du monde de l'inquiétude et du repli sur soi. Hein. C'est pas rien. Hein. On n'a pas forcément beaucoup de records, mais on a quand même certains que les autres ne nous envient pas. Hein. Et on sait que la consommation de médicaments contre l'anxiété est une... Alors, apparemment, ça s'est un petit peu calmé, mais la France est bien classée aussi dans la consommation d'anxiolytiques et de médicaments contre les insomnies et contre l'anxiété. Alors, les problèmes économiques, l'insécurité, la faiblesse du marché de l'emploi sont autant de facteurs qui génèrent de l'inquiétude. Et on se souvient, bon, je crois que c'était au mois de décembre dernier, toute cette vague de violence avec les gilets jaunes et ce qu'on a connu, ces manifestations, parce que les gens étaient dans l'inquiétude concernant ce qui peut se passer concernant l'avenir. Ici. Et les chrétiens, malheureusement aussi, sont sujets à l'inquiétude. Et pour les mêmes raisons, souvent que les gens du monde, mais parfois aussi à cause d'autres raisons. Ça peut être le salut de membres de la famille ou des situations difficiles créées à cause du fait que l'un est au Seigneur et l'autre non. Donc il y a beaucoup d'autres inquiétudes qui peuvent s'ajouter à cause même du fait que l'on est chrétien. Alors, quelle est la nature néanmoins de l'inquiétude? Si on regarde dans le dictionnaire, je vais regarder dans le Larousse, et il est dit que c'est un état affectif pénible causé par la crainte, l'appréhension et l'incertitude. Et dans le verset qui nous intéresse, le sens signifie le fait d'être tiraillé entre plusieurs directions. On ne sait pas où donner de la tête. On pense à cela et puis après on pense à autre chose. On s'inquiète, est-ce que c'est ça qu'il faut faire, est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut faire? Et donc c'est être tiraillé entre plusieurs directions. Donc l'inquiétude révèle, on pourrait dire, un état d'esprit instable qui trouble à cause de manque de visibilité, une visibilité insuffisante sur les choses à venir. Donc c'est contre cette disposition-là que l'apôtre Paul exhorte les croyants de Philippe. Alors, il faut souligner que s'inquiéter n'est pas toujours mauvais. Il y a un sens parfois dans l'inquiétude qui est un bon sens. Par exemple, lorsque l'apôtre Paul dit dans cette même lettre, au chapitre 2 et au verset 21, verset 20, il dit « Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre à cœur votre situation. » Et donc, il parle ici de prendre soin, prendre à cœur la situation. C'est le même sens que de s'inquiéter. Il n'y a personne qui s'inquiète de votre situation. Donc il y a un sens parfois positif que peut avoir l'inquiétude, c'est-à-dire c'est pas le fait d'être tiraillé à droite et à gauche, mais c'est le fait d'être soucieux, de prendre à cœur, de prendre soin. Par exemple, l'apôtre Paul dit la même chose quand il parle aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 11, 28, il parle qu'il est assiégé chaque jour par les églises. Il dit, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis, par les inquiétudes, on pourrait dire, que me donnent toutes les églises. Il dit pas, je sais pas où est de la tête, je suis inquiet, j'ai peur, je sais pas ce qui va se passer, non. Il dit que cela génère pour lui une charge importante et à laquelle il se donne. Donc il est soucieux de cela. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il y a ici l'idée de prévoir, de prévenir, de prendre soin de sa famille ici. Donc ça, c'est un sens qui est un bon sens. Donc l'Écriture n'encourage pas à être insouciant, à être imprévenant, pas du tout. Mais ici, il est question de cette attitude dans laquelle on est tiraillé dans tous les sens. Et l'apôtre Paul décrit cela, ici dans notre verset, la nature de l'inquiétude, par l'activité incontrôlée des cœurs et des pensées. Regardez comment il dit cela, chapitre 4, verset 6. Il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Donc le cœur et les pensées sont vraiment ici le lieu, le siège où il y a tous ces tiraillements. Donc on comprend ici que c'est cette agitation incontrôlée des pensées et du cœur qui génère vraiment ou qui caractérise cette inquiétude. Et c'est ce que Jésus a dit à Marthe, vous vous souvenez, lorsque l'invité de prestige est arrivé chez eux, et puis il y avait sa sœur Marie qui est assise au pied du Seigneur, qui écoute sa parole, et puis Marthe qui est affairée à la cuisine pour préparer certainement le meilleur plat, et elle vient et elle n'en pouvait plus. Et elle dit à Jésus, « Mais Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et qu'est-ce que Jésus répond? Il répond, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. » C'est-à-dire, c'est l'équivalent pour beaucoup de choses. Donc, son inquiétude est décrite ici par Jésus lui-même comme une agitation. Elle ne sait plus où aller. Elle est tiraillée à droite, tiraillée à gauche. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de calme. Donc l'inquiétude a pour siège le cœur et les pensées. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, dit Proverbe chapitre 12, verset 25. Donc l'activité, l'inquiétude est décrite ici comme l'activité incontrôlée du cœur et des pensées. Mais aussi, on peut la décrire par la crainte de l'avenir. On ne s'inquiète pas de la réalité présente, mais on s'inquiète toujours de l'incertitude à venir. Peut-être que l'on voit avec cette réalité présente. Vous comprenez ça? On s'inquiète pas de la réalité de ce qui est, mais on s'inquiète de ce qui peut arriver avec ce qui est. Et peut-être les croyants de Philippe s'inquiétaient du sort à venir de Paul ou de celui de l'Église dans cette situation et dans cette situation qui perdure aussi avec Évodie et Saint-Tige. Peut-être ils avaient peur de ce qui pourrait arriver, ce que cette situation présente laisse présager comme mauvais avenir, on pourrait dire. Et donc l'inquiétude s'intéresse quelque part toujours à ce qui est à venir, ce qui n'est pas encore arrivé. Et vous souvenez-vous dans le sermon sur la montagne, lorsque Jésus traite la question de l'inquiétude, eh bien cela est évident. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34, je vous lis quelques versets, il dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez. » C'est ce qu'il dit? Non. Il dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. » C'est au futur. C'est pas ce qu'ils ont à manger qui les inquiète. C'est ce qu'ils n'ont pas à manger qui les inquiète. Et il dit « De ce que vous mangerez, ni de votre cœur, de votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Il dit « Si Dieu revêt l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui sera jetée au four demain, j'ai mal lu. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas ?» On est encore au futur. « À plus forte raison, gens de peu de foi. » Il dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou que de quoi serons-nous vêtus ?» Les questions que pose l'inquiétude, ce sont jamais des questions présentes, c'est toujours des questions qui ont trait au futur, à l'avenir. Et Jésus dit, verset 33 du chapitre 6 de Matthieu, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et puis, il résume tout son enseignement. Il dit « Ne vous inquiétez donc pas de quoi ?» Du lendemain. Car le lendemain, dit-il, aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, l'inquiétude a toujours pour souci ce qui n'est pas encore. Elle donne forme à ce qui n'est pas encore, elle donne une certaine réalité, juste ou pas juste, à ce qui n'est pas encore, et elle s'agite à propos de cela. Et donc la conclusion de Jésus, c'est que voilà, il ne faut pas vous inquiéter parce que le lendemain aura soin de lui-même. Même dans les situations qu'on peut anticiper, qui seront des situations difficiles, Jésus enseigne de ne pas s'inquiéter. Rappelez-vous ce qu'il dit à ses disciples. Il dit « Quand on vous emmènera pour vous livrer, Ne vous inquiétez pas d'avance, il dit, de ce que vous aurez à dire. Enfin, on dit, vous avez déjà eu ces questions parfois, mais si, par exemple, il se passe, pas moi, on prend des situations rocambolesques, il se passe quelque chose où, voilà, tu as caché des gens chez toi, et des gens me disent des fois, hein, tu as caché des gens chez toi, et puis voilà, pour qu'ils, parce qu'ils sont, à l'époque, par exemple, où il y avait, dans la guerre mondiale, il y avait les juifs, tu as caché des juifs chez toi, et puis voilà, les autorités viennent, te disent, est-ce que tu as quelqu'un de caché? Qu'est-ce que tu vas faire? Et après, on l'a se gratter la tête, bon, je sais pas, peut-être que j'aurais dit, et des fois, il dit, bon, ça, je n'ai pas été dans cette situation. Ce n'est pas la peine que je m'inquiète avec ce que je ferai dans cette situation. Pourquoi on se tracasse plus avec ce qu'on fera dans une situation hypothétique et ça cause plus de soucis qu'autre chose. Jésus dit ici, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Il dit, parce qu'il vous sera donné à l'heure même ce que vous devez dire. Donc, c'est pas la peine de préméditer, de penser, quand je serai dans cette situation, ou quand je serai dans celle-là, ou quand j'aurai ceci, ou quand je n'aurai pas cela, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Il dit, non. Il dit, ici, ne vous inquiétez pas à l'avance. Ça sert à rien de s'inquiéter à l'avance pour ce genre de choses. Il dit, quand vous serez dans la situation, Dieu, encore une fois, je dis, on parle pas du fait d'être insouciant. On parle du fait d'être, de se forger tout un tas de scénarios. Il dit, ici, il vous sera donné à l'heure même ce que vous devrez dire. Donc, ce que vous devrez dire. Donc, l'inquiétude se nourrit de ce qui n'est pas encore arrivé. Mais aussi, quelles sont les implications de l'inquiétude? D'après le passage que nous avons sous les yeux, eh bien, Paul, en exhortant les croyants à la prière, c'est-à-dire, il les envoie dans la direction qui est contraire à ce que l'inquiétude produit, il les envoie donc vers Dieu. Il montre que l'inquiétude a pour implication l'éloignement de Dieu. On s'éloigne de Dieu lorsque l'on s'inquiète de la sorte. On peut dire, oh, moi je suis inquiet, mais je reste attaché au Seigneur. Non, on s'éloigne de Dieu. L'inquiétude et la prière, a dit quelqu'un, sont plus opposées entre elles que ne le sont le feu et l'eau. C'est-à-dire, quand je m'inquiète, je ne prie pas en général. Et quand je ne prie pas, je ne suis pas vers Dieu. Donc, l'inquiétude m'éloigne vers Dieu. Elle tend à m'éloigner vers Dieu. Celui qui s'inquiète de la sorte, il ne cherche pas Dieu, mais cherche toujours une solution, quelque part. Hein. Quand on s'inquiète, on cherche comment je vais faire. C'est la question que je vais poser. Comment je vais faire? Et on essaye par là, on appelle un tel par là, on va regarder par là s'il n'y a pas un moyen, etc. On ne cherche pas la relation avec Dieu, mais on cherche le moyen d'anticiper cet avenir et d'y échapper. Et puis, on pourrait dire une deuxième implication, c'est que l'inquiétude trahit un manque de foi en Dieu et dans sa providence et dans sa souveraineté. Celui qui s'inquiète ne croit pas que Dieu peut intervenir sur les temps et les circonstances. Il manque de foi. Et c'est pas moi qui le dis, la Bible le dit. Nous avons lu tout à l'heure, hein, quand Jésus a dit à ses disciples, hein, il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs. C'est-à-dire, il les amène à réfléchir sur ce que Dieu fait. Dieu revêt l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui sera jeté au four demain. Est-ce qu'il ne vous vêtira pas, il ajoute, à plus forte raison, gens de quoi? Peu de foi. Donc il dit, voilà que par votre inquiétude, vous témoignez votre manque de foi dans ce que Dieu peut faire. Oui, Dieu peut revêtir l'herbe des champs, mais peut-être que moi, il ne va pas me revêtir. Hein? Et donc, on manifeste un manque de foi. Rappelez-vous, les disciples, lorsqu'ils étaient dans la barque, et puis qu'il y a eu une tempête, et que Jésus, il faisait quoi? Il dormait sur un coussin, en pleine tempête. Alors, ils arrivent, et puis, ils le réveillent, et puis, ils disent à Jésus, « Maître, regardez ce qu'il lui propose. » Il lui propose à Jésus de s'inquiéter. Oui, ils disent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas, ici, de ce que nous périssons ?» Et mais fais comme nous, inquiète-toi, fais quelque chose. On est en train de couler, d'accord? Ils sont en panique, Et il propose à Jésus de paniquer avec eux. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus s'étant réveillé, il menace le vent et il dit « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Voilà, il s'occupe des éléments. Et puis maintenant, il s'occupe des disciples. Il dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» C'est ce qu'il leur pose comme question. Et Matthieu chapitre 7, verset 37, chapitre 4, pardon, verset 37 à 40. « Pourquoi avez-vous peur ?» Il dit « Pourquoi n'avez-vous point de foi ?» Quelle foi il n'avait pas? Il n'avait pas foi que Dieu aurait pu, que Jésus aurait pu arrêter la tempête. Mais il pensait peut-être que Jésus pouvait se noyer. Hein? Dieu, comme avait dit quelqu'un, vous imaginez les titres des journaux, Dieu s'est noyé. Hein? Ça n'a aucun sens. Mais des fois, quand on s'inquiète, on est dans une disposition d'esprit et ça n'a pas de sens, hein? Ça n'a pas de sens. On est dans un bateau avec celui qui a créé les éléments, les flots, et on a peur de couler. On a peur de couler. Pierre marche sur l'eau, n'est-ce pas? Quand Jésus lui dit viens, il marche, et puis après il voit les flots, il voit, et puis il commence à avoir peur, il commence à couler. Et puis Jésus lui dit, mais voilà, tu as peur, tu crains, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'avenir, il voit pas, il ne voit pas Jésus qui lui a dit viens. Et c'est comme cela que nous manifestons aussi notre manque de foi en Dieu par notre inquiétude. L'inquiétude éloigne de Dieu, mais aussi traduit qu'on n'a pas véritablement foi dans la capacité de Dieu à intervenir sur les temps et sur les circonstances. Donc, ça c'est un peu pour parler de l'inquiétude, on pourrait dire beaucoup d'autres choses, mais on va s'arrêter là. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à ces Philippiens concernant l'inquiétude? Il va leur donner, on pourrait dire ici, l'antidote de l'inquiétude. Et il dit ceci, ils ont le verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec action de grâce. » Comment est-ce qu'il exhorte les croyants à lutter contre l'inquiétude? Je ne sais pas si vous avez déjà fait un petit tour sur Internet pour chercher comment lutter contre l'inquiétude. Ce que le monde propose. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions pour lutter contre l'anxiété et contre l'inquiétude. Des choses que l'on doit faire, des choses auxquelles on doit penser, n'est-ce pas? On nous dit qu'on peut penser positivement, de ne plus écouter des nouvelles qui sont des nouvelles négatives. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées pour lutter contre l'anxiété et contre l'inquiétude. Mais quelle prescription l'apôtre Paul donne-t-il ici? Après, il dit de faire connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec action de grâce. En gros, en résumé, ce qu'il dit, il dit que pour lutter contre l'inquiétude, il faut communiquer avec Dieu. Il faut parler avec Dieu. Tu fais connaître tes besoins à Dieu. Après, les trois expressions qu'il donne, c'est pour montrer comment on le fait. Mais en fait, ce qu'il dit en substance, c'est qu'il faut communiquer avec Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, premièrement, il donne une interdiction absolue. Ne vous inquiétez de rien. Il ne dit pas ne vous inquiétez pas pour les petites choses. Quand c'est un gros truc, un gros événement, d'accord, bon, je comprends, vous pouvez vous inquiéter. Non, il dit ne vous inquiétez de rien. Dans aucune chose, vous ne devez vous inquiéter. Quelle que soit la circonstance, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, le chrétien doit refuser de s'inquiéter, de s'agiter en pensant à l'avenir et en disant qu'est-ce qui va se passer. Hein? L'interdiction de Jésus est tout aussi formelle et absolue quand il parle dans Matthieu chapitre 6. Il dit « Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez donc point ». C'est pareil. Et l'enfant de Dieu ne doit pas s'inquiéter. Mais l'apôtre Paul ne dit pas simplement qu'il faut refuser de s'inquiéter. Parfois, le monde nous propose, ben, écoute, il faut dire non à l'inquiétude. Quand ça vient, vous dites non. Hein? C'est pas ce que l'apôtre Paul dit. Ça ne marche pas. Hein? Quand on s'inquiète, on s'inquiète. D'accord? Vous pouvez dire aux gens, oui, non, c'est quand on est couché sur son lit qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil parce que les pensées s'agitent au-dedans de nous. C'est comme ça. Hein? Et l'apôtre Paul dit que c'est une agitation incontrôlée du cœur et des pensées. Donc, on ne peut pas agir nous-mêmes sur cela. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, toutes les thérapies qui proposent de faire un travail sur soi, ça ne marche pas parce que c'est des choses qui se passent au plus profond de nous-mêmes. Et l'apôtre Paul dit ce qu'il faut faire, il faut parler à Dieu. Donc, même on ne s'inquiète pas, on refuse de s'inquiéter. Et on dit que quelle que soit la circonstance, on dit, voilà, on ne va pas s'inquiéter, mais pour faire quelque chose d'autre, qu'est-ce qu'on va faire? On va se tourner vers Dieu. Mais, dit-il, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Il ne dit pas qu'il faut avoir des pensées positives, oublier les problèmes, ni qu'il faut développer une bonne image de soi. Il dit que la réponse biblique à l'inquiétude est pour le croyant, c'est de communiquer avec Dieu en toute chose. Vous voyez un peu le parallèle. Il dit on refuse de s'inquiéter, quelles que soient les circonstances, mais il dit on se tourne et on parle à Dieu dans toutes les circonstances. C'est-à-dire toutes les circonstances pour lesquelles on a tendance à s'inquiéter. Dans toutes ces circonstances, il faut non pas s'inquiéter, mais parler, communiquer avec Dieu. Tout doit être porté à sa connaissance. Alors bien sûr, nous n'allons pas augmenter la connaissance de Dieu. C'est pas comme si Dieu ne connaît pas le problème et je vais lui dire quel est mon problème. Dieu connaît toutes choses. Jésus, dans Matthieu 6, disait encore ceci, il dit, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez, avant même qu'on ouvre la bouche pour le demander, il sait de quoi nous avons besoin. Donc, on va pas informer Dieu, d'accord, sur quelque chose. Mais l'apôtre indique comment le croyant doit faire connaître ses besoins à Dieu. C'est plus nous qui avons besoin de faire connaître ces choses à Dieu. Et comment est-ce que on le fait? Regardez ce qu'il dit. Il dit on le fait par des prières, par des supplications et avec action de grâce. Donc par les prières, c'est un terme général qui, selon les spécialistes, contient ici l'idée d'adoration et de consécration. On vient vers Dieu dans une attitude d'adoration. La situation est difficile, on vient vers lui dans une attitude d'adoration. C'est l'idée de répandre son âme devant Dieu. Rappelez-vous Anne, qui la femme de Elkana, c'est ça, qui voilà, et la maman de Samuel. Et qui n'avait pas d'enfant, qui était stérile, et qui avait sa rivale qui la mortifiait. Elle souffrait à cause de ça. Et à un moment, la Bible nous montre qu'elle est là, elle est montée dans le temple, et qu'elle prie Dieu, certainement qu'elle demande à Dieu un fils. Et Élie, le prophète, la voit qui est en train de parler, il voit ses lèvres qui bougent, et puis il dit, il pense qu'elle est ivre. Et puis il lui dit, mais fais passer ton vin, jusqu'à quand seras-tu ivre? Et elle dit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais elle dit, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Je crois qu'il y a un peu cette idée-là dans le fait qu'on s'approche de Dieu dans la prière. On va venir, et on peut supposer qu'il y a une attitude d'adoration dans ce qu'elle dit, hein, de vénération vers Dieu à qui elle va demander, mais en même temps, un Dieu qu'elle adore au plus profond de son cœur, ici. C'est une prière, on pourrait dire, qu'elle offre à Dieu dans l'adoration. Et n'est-ce pas ainsi que le Seigneur nous enseigne à prier aussi, d'abord, hein? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis, il dit, donne-nous. Alors là, on arrive à la supplication, à la requête. Mais d'abord, on s'approche d'une attitude d'adoration vis-à-vis de Dieu. Puis deuxièmement, il dit par des supplications. Et donc la supplication, on pense, c'est l'expression, la formulation précise de requêtes spécifiques. Le croyant est exhorté à tout ce qu'il a sur le cœur de le demander à Dieu, lui faire connaître tous ses besoins. D'accord. Prier précisément pour chaque chose dont j'ai besoin. Et quels sont les besoins qui occupent les croyants et pour lesquels leur incertitude tend à générer de l'inquiétude? Eh bien, il dit, tu les présentes à Dieu. Le travail, la rencontre éventuelle du futur conjoint, le prochain voyage, le conflit avec un autre croyant, le salut de membres de la famille, toutes ces choses, tu dois les porter devant Dieu et lui demander spécifiquement à l'égard de ces choses. Il n'y a pas de grandes et de petites choses pour Dieu. Hein, parfois, quand on a notre voiture qui fonctionne pas, si c'est une petite panne, qu'est-ce qu'on fait? On répare ça soi-même. Hein, il faut gonfler les pneus, on va à la station, on gonfle le pneu et puis c'est terminé. Mais si c'est une grosse panne mécanique, on dit il faut quand même quelqu'un, un spécialiste pour le faire. C'est pas, on va voir quelqu'un qui connaît, on va voir un garagiste et on lui confie sa voiture. Et malheureusement, on a parfois cette attitude à l'égard de Dieu. Les petites choses, je peux les faire moi-même. Pas besoin de prier Dieu pour ça, pas besoin de le déranger pour ça. Je peux faire. Par contre, quand c'est des grandes choses, eh bien là, ouais, j'ai besoin que Dieu intervienne et il faut que je prie, que je lui demande ces choses parce que je ne peux pas les faire moi-même. Paul ne dit pas qu'on prie Dieu quand on ne peut pas faire soi-même les choses. Il dit que dans toutes les circonstances, pour toutes choses, on doit supplier Dieu. On doit présenter ces choses à Dieu. Rappelez-vous les disciples de Jésus, quand les parents sont venus avec les enfants pour les présenter à Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hein, ils les ont repoussés. L'air de dire, Jésus n'a pas le temps. Les enfants, on a quand même une mission à faire. Il n'y a que 3 ans de ministère, on est occupé. Il faut aller traverser les villages, annoncer l'évangile. C'est pas une mince affaire, on va pas s'amuser avec des enfants. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit... La Bible dit que Jésus était, il était indigné lorsqu'il a vu cela. Et il a dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. Et on peut dire que quand on a nos problèmes, Dieu dit, laissez venir à moi les petits problèmes. Laissez-les venir à moi aussi. Présentez-les-moi, les grands comme les petits. Tous, il n'y a absolument rien que Dieu ne veuille écouter de la part de ses enfants dans leur requête. Et c'est d'une extrême importance. En toute chose, dit l'apôtre Paul, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et par des requêtes spécifiques, par des supplications. Mais, dit-il aussi, avec, troisièmement, action de grâce. Il s'agit de reconnaître la bonté de Dieu et ses bienfaits. Et c'est une chose, une dimension que l'on oublie dans la manière de communiquer avec Dieu. On vient, parfois, on peut demander des choses, mais on oublie de remercier Dieu pour qui il est et pour tout ce qu'on a déjà avec lui. Et je lisais dans un site là sur comment vaincre l'anxiété. J'avais trouvé ça. Ça s'appelle comment vaincre l'anxiété en 6 rounds. Hein. Donc l'auteur de l'article propose entre autres choses qu'il faut s'auto-féliciter sans pudeur. Et j'ai trouvé ça intéressant. Il dit se remercier, se congratuler participe à changer son état d'esprit. À chaque petite victoire qui vous a coûté de l'énergie, un dépassement de vous, adressez-vous des bravos et des merci. Dites-le, écrivez-le. Songez aussi à vous dédoubler en laissant un message sur votre répondeur mail. Par exemple, bravo Jean, tu as été formidable. Tu as démêlé ceci avec brio. Et le jour où vous êtes mal, vous mettez votre répondeur et vous entendez votre propre encouragement, voyez. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Il dit de venir à Dieu en rendant grâce, pas à nous-mêmes pour ce qu'on a fait, mais à Dieu pour ce qu'il a fait. D'accord? Et tourner vers Dieu, c'est rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. D'accord? Le remercier pour tout ce qu'il a déjà fait, le salut qu'il nous a offert. Chaque fois qu'on pose les genoux par terre, on pourrait dire ici, pourquoi, quelle raison j'ai de rendre grâce à Dieu? Quelle raison j'ai de rendre grâce à Dieu? Et quelqu'un disait que si, quand je plie le genou, j'ai des ressentiments contre Dieu, il dit, autant me lever tout de suite et ne pas prier. Parce que l'attitude que Dieu réclame, c'est celle qui vient à lui dans aussi l'action de grâce, où on est capable de voir ce que Dieu fait. Rappelez-vous de Jérémie, ici, qui disait, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattu au-dedans de moi. » Puis il ajoute, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il dit, voilà, mon âme est triste, etc. Et abattue, mais il dit, et qu'est-ce qu'il va faire? On pourrait s'inquiéter avec ça. Qu'est-ce que je vais devenir, etc. Pendant combien de temps je vais rester dans ce trou, etc. Et il dit, voilà ce que je veux volontairement repasser à mon cœur. C'est Dieu, dans les vérités sur lui, lui rendre grâce pour ses bontés. Il ajoute, oh, que ta fidélité est grande. Alors, pourquoi puis-je rendre grâce à Dieu? Posons-nous la question. Hein? Mais posons-nous là quand nous sommes assaillis parfois par les difficultés et que nous avons tendance à nous inquiéter. Dieu est toujours celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui veut, qui l'a livré pour nous et qui veut nous donner aussi toutes choses par lui. Dieu est toujours celui qui nous donnera toutes choses en Christ, celui qui nous aime, celui qui nous garde, l'apôtre Pierre le dit, hein, pour le salut prêt à être révélé. Nous, celui qui est notre Père, hein, Jésus dit, notre Père céleste, on doit se souvenir de toutes ces réalités sur Dieu, se souvenir de tout ce qu'il nous a déjà aussi accordé dans le passé, hein, et venir devant lui avec action de grâce. Donc voilà comment l'apôtre Paul, quel antidote on pourrait dire l'apôtre Paul donne aux Philippiens concernant cela, mais il ajoute une troisième chose, il dit quelle est la promesse, quelle promesse cela contient. Il donne une promesse divine contre l'anxiété et il dit que c'est la paix de Dieu. Notons que pour le croyant qui obéit au commandement de Dieu, l'apôtre Paul ne dit pas ici qu'il aura l'obtention de tout ce qu'il demande dans les supplications. Il ne dit pas « Demandez, faites connaître tous vos besoins à Dieu et il vous donnera tout ce que vous avez peut-être demandé dans vos prières. » Et on entend parfois des personnes qui disent « Moi, j'ai beaucoup prié pour demander à Dieu cela et il ne l'a pas fait. Mais j'ai prié et j'ai prié tous les jours. J'ai prié pour cela. » Et les personnes parfois disent ça avec une espèce d'insatisfaction. C'est-à-dire que l'objet de la demande n'a pas été accordé. Et se demande, mais à quoi ça sert de prier? À quoi ça sert de prier? L'Écriture montre que Dieu, dans sa grâce, veut nous donner au-delà de ce que nous avons demandé. Il nous donne au-delà. Et quand il dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées, il dit que Dieu vous donne au-delà de ce que vous demandez. Il dit, la promesse n'est pas d'obtenir tout ce que nous avons demandé, mais d'obtenir la paix de Dieu. Et Éphésiens 3, verset 20, l'apôtre Paul dit que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Donc la volonté de Dieu, c'est de nous donner plus que ce que nous demandons, bien au-delà. En réalité, nous ne savons pas ce qui est convenable de demander. Ce n'est pas parce qu'on demande à Dieu que ce que l'on demande est une bonne chose. Ce n'est pas parce que Dieu dit « Demande-moi » que ce que l'on demande à Dieu est une bonne chose. Et la Bible dit, l'apôtre Paul le dit en Romains, il dit « L'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » C'est Romains chapitre 8, verset 26. Nous ne savons pas. On pense demander bien, mais on ne demande pas la bonne chose. Et puis, ce qui est recherché, ce n'est pas le fait de demander simplement, c'est le fait de venir à Dieu dans une attitude de dépendance. Donc Dieu accepte que nous venions, même avec notre requête dont le contenu n'est pas ce qu'il nous faut, parce que nous venons à lui et il veut nous donner bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons. La promesse de Dieu donc n'est pas de répondre à la prière par la réalisation de ce que nous avons demandé, mais par le don de sa paix. Et un commentateur faisait remarquer ceci. Il dit, l'apôtre Paul, par exemple, quand il est à Corinthe, il fait une prière dans l'épître aux Romains. Il dit ceci. Il engage les Romains à prier pour lui. Romains chapitre 15, je crois, il dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières à ma faveur. Et voici ses requêtes. Afin que je sois délivré des incrédules de Judée, quand il arrive à Jérusalem. Deuxième requête, et que le don que je porte à Jérusalem soit agréé par les saints, don financier qu'il était en train de porter. Et troisième requête, et que j'arrive chez vous, c'est-à-dire à Rome, avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Il dit, priez cela, demandez cela à Dieu. Voilà. Alors, on peut noter que au moins deux des requêtes n'ont pas été exaucées dans ces termes-là. Hein. Quand il arrive à Jérusalem, il n'est pas vraiment délivré, si on veut dire, hein, d'une certaine manière, oui, mais des incrédules de Judée. Il a tout de suite été traduit, battu, il a été enlevé par les soldats, transporté à Césarée pendant 2 ans en prison. C'est ainsi que ça se passe pour lui à Jérusalem. Concernant le don, c'est pas comment peut-être que ça a pu être distribué, mais quand il arrive à Rome, il arrive après un naufrage, il arrive enchaîné, et il n'arrive pas pour se reposer. Et c'était ça qu'il avait demandé comme sujet de prière à ces personnes. Alors bien sûr, il est arrivé. Bien sûr, il a rendu grâce. Si vous lisez Actes, il dit que quand l'apôtre Paul arrive à Rome et qu'il voit les frères, il rend grâce à Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Et enchaîné, il arrive, il voit les frères et son cœur est, il remercie Dieu pour ce qu'il a fait. Mais il est en prison. Ici, quand il écrit cette lettre, il est en prison à Rome. Donc, si vous voulez, et on pourrait prendre l'exemple de sa prière quand il prie 3 fois à Dieu de lui enlever une écharde, il n'obtient pas l'enlèvement de l'écharde, mais il obtient, il dit, la grâce suffisante de Dieu. Ici, Dieu donne plus, beaucoup plus que ce que nous demandons. Et ça veut dire que la solution à nos problèmes n'est pas dans l'obtention de ce que nous demandons, mais dans le don que Dieu fait systématiquement. Et donc, il donne sa paix. Je vais terminer rapidement. Quel est le caractère de cette paix? C'est la paix de Dieu, premièrement, hein, qu'il donne. Ce n'est pas simplement quelque chose de statique, une paix, mais une paix surnaturelle. La paix de Dieu que personne d'autre que Dieu ne peut donner. Lorsque vous lisez sur les lieux, on vous propose de vaincre l'anxiété, on vous dit voilà comment avoir la paix avec vous-même. Mais ça n'existe pas réellement. La Bible dit que la paix, la vraie paix, elle vient de Dieu. C'est celle que Dieu donne. On l'a lu ce matin. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne. Il y a une certaine paix que le monde donne. Il dit c'est pas ça que je vous donne. Je vous donne la paix divine. La paix qui vient de Dieu, la paix par excellence, celle qui est le fruit de l'Esprit. Il dit, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Elle est au-dessus de tout ce que je peux, par mes débats intellectuels, appréhender. L'inquiétude fait quoi? Me fait partir dans plusieurs directions, réfléchir à comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela. Et puis, je ne suis pas tranquille. La paix de Dieu est bien au-dessus de tout cela. Bien au-dessus de toutes les compréhensions et de toute intelligence. L'inquiétude ne répond pas à toutes les questions. En fait, elle ne fait qu'en poser, hein, d'ailleurs. Mais la paix de Dieu surpasse toutes ces questions et apporte des véritables solutions. Et puis, regardez la puissance de cette paix. C'est une paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et le terme gardé ici, c'est un terme militaire, hein. C'est le même qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 11, 32, quand l'apôtre Paul dit, par exemple, à Damas, le gouverneur du roi Arétas, faisait garder la ville des Damaséniens. Il faisait garder la ville. D'accord? C'est les militaires gardent la ville. Un peu comme on a eu les militaires il n'y a pas très longtemps qui ont gardé devant le temple, pour empêcher que quelque chose n'arrive. Donc ici, les gardes voulaient empêcher Paul de partir de la ville. Donc ils ont monté la garde pour l'attraper en cas où il essayait de fuir. Eh bien, c'est ainsi l'apôtre Paul dit que la paix de Dieu monte la garde autour du cœur et de la pensée des enfants de Dieu. Ici, hein. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. La paix de Dieu garde pour pouvoir empêcher toute intrusion, toute invasion de choses qui pourraient, voilà, nous faire partir dans l'inquiétude, dans l'anxiété et réfléchir à tort et à travers. Cette paix n'est pas quelque chose de statique, hein, que je peux atteindre en faisant des efforts de méditation, mais c'est un don de Dieu. C'est quelque chose qui est actif. Paul la présente comme œuvrant, comme travaillant, comme veillant avec un résultat garanti sur la protection des cœurs et des pensées. Et puis troisièmement, notez la sphère bien précise dans laquelle cette paix est disponible. Il dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées où ? En Jésus-Christ. Il faut être en Jésus-Christ pour que cette paix puisse nous garder. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on va dire aux gens du monde, fais connaître à Dieu tes besoins et tu vas voir, la paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées. Non, il dit gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La première chose dont a besoin quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est Jésus-Christ. La paix de Dieu n'est disponible qu'en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous sommes gardés. C'est lui, l'apôtre Paul dit, qui est notre paix. C'est lui qui a fait la paix par son sacrifice, par son sang. Il n'y a point de paix, hors de Jésus-Christ. Ici. Je termine avec juste quelques applications pour nous. Notre relation avec Dieu est plus importante que le confort de nos circonstances. Notre relation avec Dieu est bien plus importante que le confort de nos circonstances. Nos prières ont souvent comme point de mire nos circonstances, mais la volonté de Dieu, c'est de nous donner la paix dans une relation intime avec lui. Il ne faut pas croire que la solution, c'est le changement de ma situation. Il y a toujours des sujets d'inquiétude et d'anxiété qui sont attachés à toutes les situations. Et quand je suis dans une situation, je pense toujours que celle de l'autre, elle est meilleure. Et que si j'étais dans celle-là, j'aurais moins de difficultés. C'est faux. C'est faux. Alors si on prend l'exemple, on va pas le temps de le développer, mais dans 1 Corinthiens chapitre 7, vous savez, c'est le grand chapitre, l'apôtre Paul parle du mariage, hein, par exemple. Il y en a qui connaissent ça bien, je vois. Ils ont lu et relu les mêmes pages de la Bible, hein. C'est l'endroit où il parle de cela. Mais il dit ici au chapitre... Je vais juste lire comme ça rapidement. Il dit au chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul dit ceci, au verset 26, il dit « Voici ce que j'estime être bon, ce que beaucoup n'ont pas envie d'entendre, même s'ils lisent ces pages, hein. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi, comme lui, quoi, sans se marier. Je veux dire. Es-tu lié à une femme, il dit, et à rompre, ne cherche pas à rompre ce lien. » N'es-tu pas lié, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as pas péché. Si la vierge est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Voilà. C'était important de considérer cela. Il ne dit pas que ce n'est pas bien de se marier. Pas du tout. Mais il dit, il ne faut pas croire qu'on va échapper à tout dans cette situation. Hein? Parfois, quand les gens sont seuls, ils disent, mais... si au moins j'étais dans cette situation, ce serait bien. C'est ce qu'on pense. D'accord? Si c'est, je pense à me marier pour être mieux, je me trompe. Je me trompe parce que je vais faire porter au mariage la raison de mon confort. Pas du tout. C'est en Dieu que doit être le confort. Alors, on ne dit pas que c'est une mauvaise chose, au contraire, c'est une bonne chose. Mais, il ne faut pas se tromper, il y aura des difficultés qui sont attachées à cela. Un peu plus loin, l'apôtre Paul dit, « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. » Encore, on trouve notre mot, verset 32. « Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur et de moyens de plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. » C'est-à-dire qu'il y a d'autres soucis qui arrivent avec le fait d'être marié et qui peut être une gêne pour certaines choses. Il y a des choses qu'on pourra faire, qu'on pourra pas faire. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de situation idéale.
Il y a pas, donc ce dont on a besoin, c'est pas le changement de situation. Ce dont on a besoin, c'est la paix de Dieu qui nous garde au sein de la situation dans laquelle on est. Si la situation change, amen. Mais même cette situation va entraîner d'autres soucis. Et il faudra aussi les confier à Dieu pour que la paix de Dieu nous garde dans cette situation. Ça, c'est la première chose que je voudrais souligner. Deuxième chose, c'est l'importance de la prière. Notre texte montre ici l'importance de nous tourner vers Dieu constamment. C'est comme si Paul disait, votre besoin le plus urgent, c'est de parler à Dieu, de parler avec Dieu, de parler avec Dieu. Quelle part, chers frères et sœurs, faisons-nous à la prière dans notre vie personnelle? Quelle part faisons-nous à la prière en tant qu'Église aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour nous? Est-ce que nous sommes présents pour prier les uns avec les autres? Est-ce que nous disons non, c'est important, je veux prier avec mes frères et sœurs, être là pour ensemble communiquer avec Dieu, parler avec Dieu? Ou est-ce que c'est, on a trop de travail? J'ai trop de travail, si je prie, je n'aurai pas le temps d'accomplir ce que j'ai à faire. Et c'est un, je ne sais pas si c'était Luther qui disait, bon, j'ai tellement de travail aujourd'hui qu'il faut que je passe plus de temps à prier. Quelque chose comme ça, en fait, c'était l'idée, quoi, un peu. Et si, plus il y a des choses à faire, et plus nous avons besoin de prier. L'apôtre Paul donne comme antidote unique le fait d'aller auprès de Dieu et de parler avec lui, dans toutes les circonstances. Quelle est la part que nous accordons à la prière, personnellement dans notre vie, mais aussi en tant qu'Église, en tant que corps Christ? Et puis, je dirais ici que nous avons vu que c'est en Christ que la paix qui est proposée ici, c'est une paix qui n'est disponible qu'en Christ. Et je voudrais m'adresser à ceux qui ne connaissent pas Christ. Il faut faire premièrement la paix avec Dieu pour connaître la paix de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le jour où vous pouvez faire la paix avec Dieu. Celui qui n'a pas fait la paix avec Dieu demeure sous la colère de Dieu. Demeure sous la colère de Dieu. Et la Bible dit que si nous entendons le message de l'Évangile, nous devons faire quelque chose avec ce message. Dieu est celui qui est venu, qui a fait la paix par son sang. La paix avec Dieu par son sang. Quiconque se confie en lui. On a lu ce passage dans Ésaïe ce matin. À celui qui se confie en toi, tu assures la paix. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Il n'y a pas de paix à moins de se confier en Jésus-Christ. De placer toute sa vie en Jésus-Christ. Il n'y a pas de paix à moins d'être en Christ. Alors venez à Jésus-Christ. Confiez-lui votre vie. Dites-lui que vous reconnaissez que vous êtes pécheur, que vous êtes perdu sans lui, que vous avez besoin de faire cette paix avec lui, cette paix qu'il donne. Vous avez besoin de la connaître. Prions. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole. Nous reconnaissons que nous sommes prompts à nous inquiéter. Et nous voyons que, selon ta parole, que ça n'est pas quelque chose que nous devons considérer comme un tempérament, mais c'est un péché, parce que tu nous demandes de ne pas nous inquiéter. Donne-nous de chercher constamment l'intimité avec toi, de venir à toi dans la prière, dans les supplications, dans l'action de grâce, à ne point nous laisser troubler, mais à te faire connaître toutes choses. Oh, tu les connais déjà, mais... Et nous savons que dans la prière, nous apprenons notre dépendance de toi. Aide-nous, Seigneur, à venir à toi chaque jour, chaque instant. Donne-nous de mesurer l'importance de la prière dans notre vie et de le placer au-delà, au-dessus de toutes nos activités. Qu'il n'y ait pas d'activité trop importante qui nous prive de rechercher premièrement ta face dans la prière.
Seigneur, je te prie que tu nous donnes le sens des priorités pour la gloire de ton nom. Amen.